إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. Nous sommes donc toujours dans la série de cours sur les conditions de la prière, qui est un livre, un épître de Cheikh Mohamed bin Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, cet illustre et éminent savant d'Ahl Sunnah al-Jama'a. Et ce livre, donc, qui est un maître qu'on appelle un maître dans le fiqh, et qui est le premier qui étudie les étudiants en sciences dans le fiqh en général, il a été expliqué par Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, qui est le muhadith connu de Médine, qui enseigne à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce livre-là est expliqué par beaucoup de savants, mais ici l'explication donc, qu'on a entrepris de traduire ensemble, c'est l'explication de Cheikh al-Abbad. Donc on avait déjà vu quelques conditions de la prière, on est arrivé au dernier cours sur la mis'alat al-Fatiha. Et on avait dit la dernière parole, c'était, est-ce qu'on la lit derrière l'imam dans les prières à voix haute et à voix basse? Et la réponse de Cheikh al-Abbad, c'était oui, qu'on devait, donc jam'an bayna al-adilla shar'iyya, c'est-à-dire en regroupant tous les textes, c'était quoi? La réponse juste pour Cheikh al-Abbad, c'était de la lire à voix basse, dans les prières à voix basse, et de la lire à voix basse après l'imam dans les prières à voix haute. Donc ça, c'était le dernier point qu'on avait étudié ensemble. Ensuite, pour entrer directement dans la suite, après cette longue interruption, Cheikh nous dit, ici c'est évidemment Cheikh Mas al-Abbad, ثم إن الشيخ رحمه الله فسر الفاتحة تفسيرا موجزا فقال بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة. Donc juste cette phrase là, Cheikh Mas al-Abbad va nous l'expliquer. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Mohamed al-Wahhab رحمه الله? Il dit, ou plutôt Cheikh al-Abbad nous dit que le Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, a ensuite expliqué la Fatiha de manière concise en disant au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et il dit c'est une baraka et une demande d'aide, ce qu'on appelle isti'ana. Et on avait déjà défini ces deux termes là et on avait dit que en tant que talib ilm, il faut essayer d'étudier ces définitions que le mashir donne par cœur. Hein? Qui sait me rappeler c'est quoi la baraka? Et je peux vous aider en vous rappelant le contexte dans lequel on l'a vu. C'était quoi? C'était quand on avait vu. Exactement. C'était quoi? C'était quand l'histoire de certains sahaba qui étaient nouveaux en islam et qui voulaient en fait accrocher quoi? En fait, qui avaient demandé au prophète « Ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat ». Hein? Pourquoi? Pour chercher la baraka auprès de cet arbre en accrochant les arbres auprès de cet arbre. On avait vu l'explication de Cheikh Rabi', c'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'avais pris une explication de qui, de quel cheikh et dans quel livre pour juste le mot « baraka ». Qui sait me rappeler? Et c'est d'ailleurs un illustre savant qui est mort il n'y a pas très longtemps, rahimahullah. Naam. Naam, c'est dans Kitab Tawhid, c'est juste. C'est Cheikh Ahmed Najmi, rahimahullah. Il avait défini la baraka dans la linguistique et dans la sharia. Qui sait juste me rappeler c'est quoi, en résumé, c'est quoi la baraka? De demander un rajout, hein, ziyada. Et l'isti'ana, qui sait me rappeler, on avait défini ça. Mais vraiment, c'est une très courte définition. C'est en deux mots, si vous voulez même. L'isti'ana, c'est talab l'aoun. Talab l'aoun. Le fait de demander de l'aide. Donc, Cheikh Mohsen al-Abbad continue en disant والمعنى أن المسلم يأتي بالبسملة تبركا بسم الله ومستعينا بالله في قراءته. وكذلك الحال في أي شيء يأتي بالتسمية قبله يأتي بها تبركا واستعانة ويقرأ البسملة سرا والبسملة آية من القرآن وهل هي آية من كل سورة أو آية مستقلة للفصل بين السور؟ وهل هي آية من سورة الفاتحة أو ليست منها؟ Donc pour les frères qui n'ont pas trop l'habitude de suivre le cours, vous inquiétez pas, on va traduire à chaque fois, on va couper à chaque fois. Hein? Ici donc le cheikh il est en train de discuter un point qui est très important et il dit أقوال لأهل العلم ويدل على أنها من القرآن أن الصحابة أدخلوها في المصحف ولم يدخلوا فيه إلا ما هو قرآن وجاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم ولا خلاف بين أهل العلم في أن البسملة بعض آية في أثناء سورة النمل وسورة الفاتحة سبع آيات فمن قال من العلماء إنها من الفاتحة عد البسملة في السبع ومن قال إنها ليست من الفاتحة جعل السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومما استدل به على أن البسملة ليست آية من الفاتحة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل قسمت الصلاة بين أو قسمت الصلاة بيني بس كسر كي بار لأن الله عز وجل يتكلم قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبد ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة فلم يذكر البسملة فيها Qu'est-ce que nous dit Cheikh Al-Muhsin Al-Abad Hafidahullahu Ta'ala? Il nous dit donc, le sens de ceci est que le musulman dit la basmala. Et c'est quoi la basmala? On avait défini la basmala en disant, c'est le fait tout simplement de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On appelle ça la basmala. Et il y a d'autres termes comme ça qui reviennent souvent dans la sunna, comme l'hawqala. Pour ceux qui ont déjà entendu, l'hawqala, c'est le fait de dire La hawla wa la quwwata illa billah. Hein? Il y en a d'autres. Hein? C'est important de connaître ça, parce que si vous lisez dans un livre l'hawqala, c'est important de savoir que c'est le fait de dire « La hawla wa la quwwata illa billah ». L'alim parle aussi d'istirja' « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». C'est des termes qu'il faut apprendre, inshallah. Donc, dis la basmala en voulant la baraka. Par le nom d'Allah et en demandant l'aide d'Allah dans sa lecture. Et ce, dans toute situation, on prononce la basmala avant. D'accord ? D'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il a une très belle explication au niveau même linguistique de qu'est-ce que la basmala. Hein? Parce que quand vous regardez la bismillah, vous dites la basmala, c'est bismillah. Et il y a quelque chose qui est quoi? Qui est muqaddar. Hein? D'accord? Et en fait, c'est quoi? C'est exactement, c'est en fonction en fait de l'action que tu vas faire. Hein? Quand tu vas écrire, bien, quand tu dis bismillah, en fait, qu'est-ce qui est muqaddar? C'est bismillahi aktub. Ou bismillahi aqara. Hein? D'accord? Ça c'est important de comprendre au niveau de la linguistique, au niveau de la grammaire arabe. Donc Cheikh dit quoi ici? Il dit, et ce dans toute situation, on prononce la basmala avant. C'est une recherche de quoi? De baraka. Et une demande d'aide, ce qu'on appelait isti'ana. Hein? La basmala, elle se lit à voix basse. Et ça c'est important. Hein? Elle se lit à voix basse. Et la basmala, donc bismillah ar-Rahman ar-Rahim, est un verset du Coran. Et justement ici, Cheikh va discuter d'un point qui est lié à ça. Et il dit, et est-elle un verset de chaque sourate? Hein? Il dit, la discussion ici, ça va être quoi? Et est-elle un verset de chaque sourate ou un verset indépendant pour séparer les sourates? Les ulama, ils ont des différents avis là-dessus. D'accord? Ou un verset indépendant, donc on a dit pour séparer les sourates, et il dit, et est-elle un verset de sourate al-Fatiha ou pas? Ben, c'est important pourquoi de savoir ça? Pour savoir si... Hein? Bien sûr. Hein? Donc ici, le Cheikh nous dit, il y a plusieurs avis chez les gens de science. Le fait que les compagnons, radiallahu anhum, les fait rentrer dans le mushaf, indique qu'elle fait partie de quoi? Du Coran. Donc le fait que les compagnons ils aient fait rentrer cette basmala dans le mushaf, hein? Eh bien, ça indique que le basmala, c'est quoi? C'est une partie du Coran, d'accord? Car ils n'y ont fait entrer que ce qui est du Coran. Il a été rapporté dans Sunan Abi Daoud, avec une chaîne de transmission authentique, de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous deux, lui et son père était sahaba. Il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne connaissait pas la séparation entre les sourates tant que ne lui était pas révélé, quoi? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'accord? Et il n'y a pas de divergence, et ça c'est un point aussi à retenir, il n'y a pas de divergence entre les gens de science. Comment on appelle ça quand il n'y a pas de divergence? On appelle ça un ijma. On avait vu ça Dans quoi? Dans quel cadre dans quel cours? C'est pas dans ce cours-ci, c'est dans l'autre cours, c'est Usul Talata. Quand Cheikh Obed Jabiri, il avait rapporté quoi? Les deux balances, barakallahu fik. C'était quoi les deux balances? C'était en arabe ou en français, comme vous voulez. An-Nas, barakallahu fik, et Al-Ijma'. Il avait dit c'est quoi? An-Nas ou Al-Ijma'. Il avait expliqué c'est quoi An-Nas? C'est le Kitab wa Sunnah et l'Ijma'. C'est important. Donc ici, regardez, il dit il n'y a pas de divergence entre les gens de science pour dire que la Bismillah dans Surat An-Naml. Alors quand est-ce qu'elle intervient, Surat Bismillah dans Surat An-Naml? Suleyman alayhi salam, quand? Ah, la reine de Saba, na'am. D'accord? Donc il dit, il n'y a pas de divergence entre les gens des sciences pour dire que la Bismillah dans Surat An-Naml est une partie de verset. Afon? D'accord? Il dit, la Surat Al-Fatiha est de 7 versets. Ceux parmi les savants qui disent que la Bismillah est une partie de la Fatiha, eh bien, ils comptent la Bismillah dans les 7 versets. D'accord? Donc, vous comprenez ça, hein? Donc, ceux qui disent, comme ça, on se situe bien. Ceux qui disent que quoi? Que la Bismillah, elle fait partie de la Fatiha. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'elle est donc une des, ou l'un des 7 versets. D'accord? Et ceux qui disent qu'elle ne fait pas partie de la Fatiha, eh bien, là, la question se pose là, c'est que c'est quoi alors le 7e verset? Pour ceux qui disent que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ce n'est pas le premier. Hein? Eh ben c'est ce qu'il a dit, c'est « Ghayr al-Maghdoubi alayhim », c'est ce que tu as dit. « Ghayr al-Maghdoubi alayhim wa al-Dhalin ». Ils disent que le 7e verset, c'est « Ghayr al-Maghdoubi alayhim wa al-Dhalin ». Parmi les preuves maintenant, il cite les preuves. Parmi les preuves utilisées pour dire que la Bismillah n'est pas un verset de la Fatiha, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Qudsi. Hein? C'est quoi un hadith Qudsi? On avait défini ça aussi. On avait même cité quelques, vraiment de manière très succincte et résumée, quelques différences entre le hadith al-Qudsi et quoi? Et le hadith et le Coran, parce que c'est différent. Alors c'est quoi un hadith al-Qudsi, vraiment très rapidement? C'est quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Allah a dit. D'accord? Hein? Et une des différences par rapport au hadith al-Qudsi et au Coran, parce que ça peut se poser comme question, hein? Quelle est la différence? Eh bien, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit par exemple dans certains de ses livres, il dit que l'une des différences, c'est que le Coran, yuta'abbadu bi tilawatihi. C'est que quoi? C'est que le Coran, tu adores Allah. En quoi? En le récitant. D'accord? Il y en a d'autres, mais ce n'est pas le sujet, mais c'est important de temps en temps, ça peut intéresser des frères et les motiver à aller faire une recherche. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith al-Qudsi? Allah Ta'ala, Allah le Très-Haut a dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon adorateur en deux parties. Et à mon adorateur, ce qu'il demande. Hein? Donc c'est important aussi de quoi, de quand on lit, donc c'est, on avait dit ça une fois dans le cours, pourquoi est-ce qu'on étudie tout ça, et pourquoi est-ce qu'on étudie le tafsir al-Fatiha, quel est un des intérêts majeurs de connaître ça? Ben c'est de quoi? Au niveau de la concentration de la prière, quand on lit le Fatiha, c'est de savoir ce que ça veut dire. Hein? Et d'y mettre le cœur. D'accord? Il ne faut pas oublier que quoi, ce que c'est? Hein? Et on va le voir ici, il dit, si l'adorateur dit, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah dit, mon adorateur a fait mes louanges. Hamadani Abdi. D'accord? Al-Hadith. Le shir n'a pas rapport. Quand un shir dit Al-Hadith, hein, c'est taqdir, c'est quoi? Akmil al-Hadith. D'accord? C'est-à-dire, le Hadith n'est pas fini, à toi de finir le Hadith. Donc, rapporté par Muslim, pour ceux qui veulent la référence, d'après une narration de Abu Huraira, radiallahu anhu ardah, et c'est Hadith numéro 395. Donc, pourquoi shir ici, et ça on avait appelé ça comment? Wajl istidlal bil Hadith. Pourquoi le cheikh ici, c'est quoi ce hadith ici? Qu'est-ce qu'il indique? Exactement, donc c'est ça. Pourquoi il dit, d'ailleurs dans le début, il dit que la preuve de ceux qui disent que ça ne fait pas partie, c'est ce hadith-là. Donc moi je l'ai cité là, le hadith, c'est justement, ils disent que, Cheikh Al-Abbad dit que la Bismillah n'a pas été citée. Elle n'a pas été citée dans ce hadith. D'accord, vous suivez, hein? Sa parole, Alhamdulillah, hein? Alhamd, c'est une louange. Et le alif et l'am font que cette louange englobe toutes les louanges. Hein? Alhamdo. Ça, c'est important dans la langue arabe aussi. D'accord? On appelle ça l'istighraq. Hein? C'est-à-dire, elle englobe toutes les genres de louanges. Tandis que ce qui est beau, sans avoir été fabriqué par l'homme, comme la beauté et autres, eh bien, le compliment qu'on en fait est appelé madhun. Et c'est la différence dans la langue arabe entre hamdun et madhun. D'accord, je répète. Je répète ce point-là. Tandis que ce qui est beau, sans avoir été fabriqué par l'homme, hein, comme la beauté de quelqu'un ou autre, d'accord ? On peut faire l'éloge de quelqu'un pour sa beauté, par exemple, d'accord ? Mais c'est qui a créé cette beauté-là ? C'est Allah, Rabbul Alamin, d'accord ? Eh bien, le compliment qu'on en fait, il est appelé comment ? Madhoun, et pas Hamdoun. Ça va ? Ça, c'est un point que Cheikh Al-Abbad rapporte ici et qui est important. Et on va lire l'explication de Cheikh Al-Abbad là-dessus. Cheikh Mohamed Al-Wahhab dit « Qawluhu alhamdulillah, alhamdu thana » C'est ce que je viens de lire en français. « Wal alif wal lam li istighraq jami' al mahamid wa amma al jamil alladhi la sun'a lahu fihi mithl al jamal wa nahwih fathana'u bihi yusamma madhan la hamdan » Cheikh Al-Abbad nous explique ça, hafidhahullahu ta'ala. Vous allez voir que ça fait chaque fois des passages courts. « Hamdu al-ibad rabbahum ibadah » وهو من توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعال العباد والله سبحانه وتعالى هو أهل الحمد والثناء على كل نعمة حصلت للعباد سواء كان لأحد من العباد سبب فيها أو لم يكن لأن الفضل في ذلك كله لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله سورة النحل وقال صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك فجميع المحامد على الحقيقة لله فهو سبحانه وحده المحمود على كل حال وأما العباد فما كان منهم من جميل اختياري كالبر والإحسان وفعل المعروف فإنهم يحمدون ويثنى عليهم فيه وما كان فيه من جميل لا صنع لهم فيه كالجمال وحسن الخلقة فإنهم يمدحون فيه ولا يحمدون عليه. Donc, Cheikh, il explique en fait ce que j'ai déjà rapporté ici un peu en français, mais plus en détail. Il dit quoi ? Que lorsque les adorateurs font les louanges de leur Seigneur, eh bien, c'est une ibada, c'est une adoration. D'accord ? Et cela fait partie du tawhid, comment ? Tawhid al-uluhiyya, qui est un des trois, quoi ? Une des trois catégories de tawhid. Les deux autres, c'est quoi ? On a dit tawhid al-uluhiyya et tawhid al-rububiyya ou tawhid asma al-sifat. D'accord ? Donc, le tawhid, l'uhuliyya, le cheikh le définit en étant comme que le tawhid d'Allah par les actions de quoi ? Des adorateurs. Allah, le Très-Haut, glorifié soit-il, est le seul endroit d'être loué pour tout bienfait qui touche les adorateurs. Bien évidemment, un droit, c'est une ibadah, c'est un droit de qui ? Un droit exclusif de qui ? Hein ? D'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord ? C'est Allah qui t'a donné ces bienfaits-là, donc c'est le seul qui est en droit d'être... À qui on doit faire les louanges, d'accord ? Et Cheikh dit quoi donc ? Il dit qu'il est le seul endroit d'être loué pour tout bienfait qui touche les adorateurs. Que l'un des adorateurs ait été une cause de ce bienfait ou pas ? Ça c'est important. Car le bien de cela revient entièrement à Allah, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Comme dans la traduction du sens de la parole d'Allah... Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Sourate Nahl, verset 53. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans sa recommandation à Ibn Abbas, ce qu'on appelle wasiyya en arabe, à Ibn Abbas, radiallahu anhuma, et sache que la communauté, s'il se regroupait pour te faire un bien, il ne pourrait te faire un bien que si Allah l'avait écrit pour toi, ou l'a écrit pour toi. Et c'est pour cela qu'en réalité, toutes les louanges reviennent à Allah. Il est glorifié, soit-il, celui qui est loué, loué dans le sens louange, dans toute situation. Tandis que les gens, les serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, ce qui a, ici, je vous demande d'être un peu, parce que c'est un peu technique, d'être un peu plus attentif, ils disent ce qui a comme j'aime, ce qu'on appelle jamil ikhtiyari. Et l'arabe nous aide à comprendre ce que c'est. C'est-à-dire, quelque chose de bien, de beau, mais qu'ils ont fait le choix, dont ils ont eu la volonté de faire. Par exemple, quand tu fais une bonne action, tu as eu la volonté de la faire ou pas ? Tu as eu la volonté, donc ce qu'on appelle un jamil, quoi ? Ikhtiyari. C'est-à-dire que toi, tu as voulu faire bien. D'accord ? Comme ce cheikh, il a donné comme nom, comme al-bir, l'obéissance. Al-ihsan, c'est des bonnes actions ou pas ? Non, c'est des bonnes actions. D'accord ? Et c'est toi qui as voulu faire ces bonnes actions. L'action, évidemment, ta volonté est sous la volonté d'Allah. Mais ta volonté, c'est toi qui as voulu faire cette bonne action-là. Ce qu'il a appelé « Cheikh al-Jamil al-Ikhtiyari ». Il dit faire le bien, ils sont complémentaires à ce sujet. On fait leur éloge à ce sujet. Hein? Donc il a dit yuhmadun alayh. D'accord? Vous voyez, en français, c'est difficile à reproduire la différence entre les deux, parce qu'on va traduire les deux par hein, faire la louange de quelqu'un. Alors qu'en arabe, il y a une différence. D'où l'importance, encore une fois, d'apprendre la langue arabe. Et qu'il y a une finesse dans la langue arabe qu'on ne retrouve pas dans la langue française. Hein? Et d'où le casse-tête à chaque fois qu'on a pour traduire ce genre de... Et les heures qu'on passe pour traduire ça, parce que c'est très difficile à reproduire. On peut juste approcher, quoi, elle met un an en français. Hein? Il faut revenir toujours au texte en arabe. Et je vous rappelle encore une fois la parole d'Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu wa arda, qui a dit « Alaykum bil arabiya fa innaha min dinikum. » Apprenez la langue arabe car elle fait partie de votre religion. Hein? Il dit donc, on fait leur éloge à ce sujet, dans le sens « Yuhmadoun alayh. » Tandis que ce qu'il y a en eux comme beauté, indépendant de leurs actions. Yani, si Allah t'a fait beau, est-ce que tu l'as voulu? Non, c'est un. Hein? Il y a ton action, tu n'as pas de volonté là-dedans. D'accord? Eh bien, Ishir Dauridom comme exemple, comme la beauté, comme une belle figure par exemple, d'accord, ce qu'on appelle en français une belle plastique, il appelait Husn al-Khilqa, une esthétique, esthétiquement parlant, une belle, quoi, une belle stature, une belle plastique, il dit, ils sont complémentaires à ce sujet, mais on ne leur fait pas les louanges à ce sujet, c'est-à-dire, la yuhmadun alayh, hein, yuthna alayh, en arabe, yuthna alayh, d'accord. Cheikh continue en disant ici, donc on a fini maintenant sur Al-Hamd, et il continue en disant « Rabbil Alamin ». On a vu « Alhamdulillah » et puis ensuite la fin du verset c'est « Rabbil Alamin ». Il cite donc d'ailleurs la parole de Cheikh Mohamed Al-Wahhab, et je vous rappelle que chaque fois on revient à la parole de Mohamed Al-Wahhab, pourquoi? Parce que c'est lui qui a écrit le livre de base, qui est expliqué par Cheikh Al-Abbad évidemment. Il dit « Rabbil Alamin », peut-être pour les frères qui n'avaient pas assisté avant, ils ont un peu difficile à s'y retrouver, mais Inch'Allah ça va aller. Hein? Il dit « Rabbil Alamin, Ar-Rabb huwa al-Ma'boud ». الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم العالمين كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع. Donc cette parole-là se retrouve dans quel autre livre qu'on fait ensemble? Usul 3. نعم. Cheikh Al-Abbad nous explique ce passage en disant وهذا فيه توحيد توحيد ربوبيته واسمائه وصفاته فان توحيد الربوبية توحيده بأفعاله سبحانه وتعالى فهو واحد في الخلق والرزق والإحياء والإماتة لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته وله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى وقد جاء في هذه الآية الحمد لله رب العالمين اسمان من أسماء الله وهما الله والرب وقال الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم سورة ياسين. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad, hafidahullah ta'ala? Il dit sa parole, c'est-à-dire la parole de Cheikh Mohamed Al-Wahhab, Rabbil Alamin, qu'est-ce que ça veut dire? Ar-Rab, c'est l'adoré, Al-Ma'boud. Ar-Rab, huwa Al-Ma'boud. C'est qui Ar-Rab? Hein? Le Seigneur, c'est qui? C'est celui qui est adoré. Le Créateur. L'infini pourvoyeur. Le Maître, subhanahu wa ta'ala. Qui éduque toutes les créatures par ses bienfaits. Al-Alamoun, ce qu'on appelle Al-Alamoun, et ici pourquoi on a dit Al-Alamin? Qui sait m'expliquer rapidement? Hein? Vas-y. Parce que c'est une idafa, ce qu'on appelle une affixation dans la langue arabe, sinon la base dans les noms, l'asma, c'est quoi? C'est Rafa. On dit Al-Alamoun. Mais ici il vient Al-Alamin, pourquoi? Parce qu'il est Mizur Biliya, Niyabatan Al-Kasra, parce qu'il est Mudaf Ilay. Donc c'est important de comprendre ça aussi. Donc, Al-Alamoun, cher, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi Al-Alamoun? C'est l'univers. C'est toute chose autre qu'Allah est l'univers. Donc, si quelqu'un vous demande c'est quoi l'univers, tu lui dis tout simplement que tout ce qui est en dehors d'Allah, Cheikh a dit en arabe, Kullu ma siwa Allahi fahuwa alam na'am. D'accord? Et il est seigneur de tous, Rabbul Alamin. Wa huwa Rabbul Jami'a, comme il a dit Cheikh ici. Donc, l'explication c'est. Il y a en cela, en Rabbul Alamin, dans la fin du verset Rabbil Alamin, il y a en cela l'unicité de quoi? De sa seigneurie, Tawhid à Ar-Rububiyyah. De ses noms, ses attributs, Asma'ihi wa Sifat, ou Asma'i wa Sifat. Le Tawhid de seigneurie, Tawhid Ar-Rububiyyah, c'est quoi sa définition? C'est le fait d'attribuer à Allah seul ses actions. Il est le seul à créer, il est le seul à pourvoir, à faire vivre et à faire mourir. Il n'a aucun associé dans sa seigneurie, ni dans sa divinité, ni dans ses noms et attributs, subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il y a deux de ses noms. Qui sait me dire, je les ai dit en arabe, ça va déjà vous aider. C'est quoi les deux noms? Allah et Ar-Rab, Ar-Rab. Ar-Rab. Hein? Donc, Cheikh nous dit ici, Allah et Ar-Rab. Et la traduction du sens de la parole d'Allah dit, Salam, paix et salut, parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Hein? Surat Yassine, verset 58. Mais Rabbir Rahim. Ensuite, Cheikh continue, on continue de tafsir surat al-Fatiha, et il dit Ar-Rahman. Hein? Non, c'est Ar-Rahmani, Ar-Rahmani Ar-Rahim. Rahmatun amma, ou ammat jami' al-makhlouqat. Et ici, d'ailleurs, je pense qu'il y a une faute dans la taba'a. Hein? On devrait dire ammatun li jami' al-makhlouqat. Ar-Rahim, rahmatun khassatun bil-mu'minin. Wa dalil qawluhu ta'ala, wa kana bil-mu'minina rahima. Cheikh Al-Abbas nous explique cela en disant Ar-Rahman wa Ar-Rahim. Hein, ces deux noms-là. Isman min asma'illah subhanahu wa ta'ala. Wa huma yadullan ala sifatin min sifatihi wa hiya ar-Rahma. Wa asma'ullahi azza wa jal kulluha mushtaqqa. Tadullu ala ma'anin hiya sifat. Fayu'khadu min kulli ismin min asma'ihi sifatun min sifatihi. Wa ar-Rahmanu a'ammu min ar-Rahim. Wa huwa la yutlaqu illa ala Allah. Fala yuqalu li ghayrihi Rahman. وأما الرحيم فيطلق على الله وعلى غيره وقد قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم سورة التوبة verset 128. Donc qu'est-ce que Cheikh nous dit sur Ar-Rahman? Le verset suivant c'est quoi? Ar-Rahman Ar-Rahim. Et encore un appel d'étudier la science des asma wa sifat. Et Cheikh Saadi rahimahullah, il dit que la science, hein, Abdelazak le Badr, qui est le fils justement de ce cheikh qu'on est en train de lire ici, hein, il a un livre qui s'appelle Asbab Ziyadat al-Iman wa Nuqsani. Les causes de quoi? De la montée de la foi et de sa diminution. Et il dit justement que le moyen le plus fort d'augmenter la foi, c'est l'étude d'Asma al-Sifat. C'est l'étude de cette science-là. Pourquoi? Les ulama disent li anna al-kalam fi al-sifat far'un an al-kalam fi al-dat. Quand tu parles des sifat, tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu parles des attributs d'Allah, tu parles des noms d'Allah, tu connais ton Seigneur et ça augmente ton iman. Hein, d'où l'importance d'étudier l'asma wa sifat. Il y a un très beau livre du même cheikh encore une fois, Abdelazak al-Badr, le fils de celui-là encore, qui est Fiqh al-Asma al-Husna. MashaAllah, j'ai un livre que je vous recommande vraiment, il est en langue arabe évidemment, alaykoum salam. Hein, et que c'est un livre, subhanallah, qui fait monter la foi. Hein, et on connaît donc notre Seigneur à travers ce genre de livre. Et il dit quoi? Il dit Ar-Rahman, c'est quoi? C'est la miséricorde générale pour toutes les créatures. Ar-Rahim, c'est la miséricorde spécifique aux croyants. Le cheikh va expliquer cela. Et la preuve de cela est la traduction du sens de la parole d'Allah. Et donc là, vous pouvez comprendre c'est quoi la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Et il est miséricordieux envers les croyants. Wa kana bil mu'minina rahima. Et là, on voit que quoi? C'est, on a utilisé le mot Rahim, pourquoi? C'est la Rahma qui est spécifique aux croyants. C'est pour ceux qui veulent la référence, sur l'Ahzab, verset 43. Explication, Ar-Rahman et Ar-Rahim sont deux noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils indiquent tous deux un attribut parmi ces attributs. Et c'est la miséricorde, Ar-Rahma. Tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, exaltés soient-ils, sont ce qu'on appelle Mushtaqqa. Ils indiquent des sens qui sont des attributs. Ça, c'est la position d'Ahl Sunnah. De chacun de ces noms, donc on prend un attribut parmi ces attributs. Ar-Rahman est plus général qu'Ar-Rahim. Et on ne peut donner ce nom-là, lequel? Ar-Rahman. On ne peut donner ce nom-là qu'à Allah. On ne peut pas dire à autre que lui, Rahman. Hein? Si, d'ailleurs, l'ouest dans l'arabe, Rahman. Hein? Il indique quoi? C'est la loi Wazm Fa'lan. Il indique le kathra, beaucoup. Hein? Vous voyez que les Aouzan en arabe, ils aident pour le sens aussi. Ce qu'on appelle quoi en français? La science de quoi? Des? Hein? Je pense qu'ils appellent ça les balances, l'Aouzan. Hein? C'est-à-dire un mot sur le quoi il est, comment le bina, comme quoi, sur quoi il est construit. Hein? Hein? D'accord? C'est plutôt au sens de l'auzan. D'accord. Pourquoi le mot est-ce qu'il est sur l'auzan de fa'lan ou de fa'latun, hein, etc. D'accord. On en parlera une fois. Par exemple, tous les Arabes, en fait, en résumé, ils ont mis sur trois lettres fa'ala. Hein, ils ont classifié à partir de ces trois lettres-là tous les verbes arabes et les noms. D'accord. Donc, avec les rajouts qu'il y a, etc., les diminutions, etc. D'accord. Et ça, c'est la science du sarf qui étudie ça. Donc, on revient ici à quoi Ar-Rahman. On dit que quoi que. De chacun de ces noms, on prend un attribut parmi ces attributs. Et Ar-Rahman, il est plus général qu'Ar-Rahim. Et on peut donner ce nom qu'à Allah. On ne peut dire à autre que lui, Rahman. On ne peut pas dire ça à autre que lui. Tandis qu'Ar-Rahim, cela peut être dit pour Allah et pour autre que lui. Allah, d'ailleurs, a dit au sujet de son prophète, Muhammad, et ça, c'est la traduction du sens de sa parole, « Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux. » Rahim. Hein, et miséricordieux envers les croyants. Surat al-Tawbah, verset 128. D'accord ? Donc, Rahim, il peut être utilisé pour autre qu'Allah Azzawajal, évidemment, avec pas le même sens, ça c'est clair, évidemment, d'accord ? Hein ? Sa parole, donc, il continue, « Qawluhu maliki yawmiddin, yawmul jaza' wal hisab. » Et je vous rappelle qu'on est toujours dans un cours de fiqh ici, on rentre dans le tafsir, mais pourquoi ? Parce qu'il faut repasser dans le contexte, c'est quoi ? C'est que on parle de la Fatiha, on est en train d'expliquer la Fatiha, qui est quoi ? Qui est un des piliers de la prière, ça c'est important toujours de garder en tête. Pour ceux qui veulent plus en détail, le tafsir de la Fatiha, je vous recommande le tafsir de la Fatiha de Cheikh Ahmed Al-Ansari, rahimahullah. Hein, un des grands savants de Médine, rahimahullah, qui est parmi les plus grands savants de cette époque, et qui est le Cheikh de qui ? De Cheikh Naam et de Cheikh Falah Ismail, qui vient chez nous visiter souvent ici. Hein, il a une explication du tafsir de la Fatiha en plus de 60 pages. D'accord ? Ça a été édité d'ailleurs dans un volume qui regroupe toutes les épîtres à lui dans l'Aqidah. Rasa'il fil Aqidah. Donc, Malik Yawmiddin. Il nous dit يوم الجزاء والحساب يوم كل يجازي بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله سورة الانفطار verset 17 à 19 والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس Mandana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Et on va voir que c'est un hadith da'if, c'est pour ça qu'on ne va pas le traduire. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Donc Cheikh Al-Abbas nous explique cela. Et justement l'importance d'avoir justement un muhadith qui explique ce genre de livre, c'est qu'il peut discuter au niveau du hadith et de la daraja du hadith, voir s'il est authentique ou pas, etc. Allah subhanahu wa ta'ala maliku kulli shay wa huwa maliku ad-dunya wal-akhirah wa innama khussa aw khassa yawm ad-din huna bi anna Allah malikahu ومالكه لأن اليوم الذي يخده فيه الخلائق لرب العالمين وهذا بخلاف الدنيا فإنه يوجد فيها من عتى وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى كاديسا وأنا ربكم الأعلى فرعون نعم وقال ما علمت لكم من إله غيري سكي فرعون وكوه والحديث الذي ذكره الشيخ أخرجه الترمذي وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. كيف كنا ندي الشيخ محمد العلهاب ينسويت رحمه الله ينسويت الشيخ العباد حفظه الله تعالى. مالك يوم الدين يوم الدين le jour de la rétribution et du compte. Le jour où chacun sera rétribué en fonction de son action. Qu'Allah nous facilite à tous ce jour-là. Si c'est un bien, il sera rétribué en bien. Et si c'est un mal, il sera rétribué en mal. Allah musta'an, on oublie souvent ce jour-là et qui te dira ce que le jour de la rétribution. Encore une fois, donc la traduction de la parole d'Allah, et qui te dira ce que le jour de la rétribution. Encore une fois, qui te dira quel est le jour de la rétribution? Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Et ce jour-là, le commandement sera Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Infitar, verset 18-17 à la fin. Et ensuite, le shaykh cite un hadith comme preuve. Et le shaykh, il va expliquer pourquoi, qui a été jugé faible, justement par le shaykh lui-même, comme nous allons nous voir, inshallah. Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad nous explique ce point-là en disant Allah, le Très-Haut, est maître de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Et il est le maître de ce bas monde et le maître de l'au-delà. Le jour du jugement dernier a été cité ici de manière spécifique. Pourquoi il a dit Malik Yawmiddin? Alors que Allah, il est le Seigneur de tout, hein? Et celui qui, comme on a dit, qui est le maître de tout. De toute autre chose, hein, de toute chose. Pourquoi ici, dans Surat Al-Fatiha, ça a été spécifié Malik Yawmiddin? Et ça, on va voir. Et des fois, quand on lit Surat Al-Fatiha, peut-être qu'on ne prête pas attention à ça. Il dit, il est le maître de ce bas monde et de l'au-delà. Et le jour du jugement dernier a été cité ici de manière spécifique, car Allah est le maître du jour du jugement dernier. Car c'est le jour où toutes les créatures se soumettent au Seigneur de l'univers, contrairement à ce bas monde. Car il y a dans ce bas monde des gens qui ont été arrogants, hein, et hautains, et ont dit, c'est moi votre Seigneur, le Très-Haut, a'udhu billah min dhalik. C'est qui? C'est Pharaon, Pharaon. Il a dit ça. C'est dans le Coran. Hein? Pour ceux qui veulent la référence, surat Nazi'at, verset 24, et a dit, je connais pas de divinité pour vous autre que moi. Surat Al-Qasas, verset 38. Et donc, comme on a dit, le cheikh ici fait évidemment référence à Pharaon. Le hadith que le cheikh a cité a été rapporté par At-Tirmidhi, référence numéro 2459, et il y a dans sa chaîne de transmission Abu Bakr ibn Abi Maryam, qui a été jugé faible par les gens du hadith. Et pour une faïda que je vous apporte aussi, Cheikh Al-Albani, rahimallah, il a aussi rendu faible ce hadith. Hein? Donc, voir Sahih Sunan Tirmidhi. C'est pour ça que je ne l'ai pas traduit. Cheikh continue en disant قوله إياك نعبد أي لا نعبد غيرك عهد. Et ça, c'est important à chaque fois qu'on dit إياك نعبد وإياك نستعين, qu'on se rappelle ça. C'est un عهد. On va voir ce que ça veut dire un عهد. بين, entre nous et notre Seigneur. بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا الله وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورة الذاريات. والتقدير المفعول هو إياك في العبادة والاستعانة فيه قصر واختصاص. ça encore une fois, c'est des notions, c'est difficile à reproduire en français. Ça, c'est des notions que tu peux comprendre. Un arabe, il comprend quand il dit إياك نعبد وإياك نستعين, c'est directement que c'est التوحيد, ça. Hein? Le fait que Yaka soit avant Na'boudou, hein? D'accord? C'est-à-dire que ce que tu adores, c'est qui? C'est Allah, évidemment. Hein? Toi seul, nous adorons. Hein? Et c'est pour ça qu'on traduit dire par toi seul. C'est quoi? Le fait qu'on mette ça avant le verbe, eh bien, c'est quoi ce qu'a fait Ikhtisa? C'est une spécification qu'on vous cette adoration de manière exclusive à Allah, Rabbil Alamin. Hein? Les Arabes, ils disent ça. Hein? Hein? Quand un Arabe dit Ra'aytu Zaydan, wa Zaydan Ra'aytu, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire Ra'aytu Zaydan? Ra'aytu Zaydan, mumkin, hein? Ghayrahu. J'ai vu Zayd et peut-être autre que lui. Mais quand il dit Zaydan Ra'aytu, c'est-à-dire j'ai vu Zayd et j'ai vu que Zayd. Hein? D'accord? Et ça, on va voir ça ici, Inch'Allah. Donc, Cheikh continue en disant Fala yu'badu illa Allah, wa la yusta'anu illa billah. فلا يطلب على الله فلا يطلب العبد العون أو فلا يطلب العون العبد العون من الملائكة أو ولا الجن ولا الغائبين. ماكم beaucoup de gens. أما طلب العون من إنسان حاضر يقدر على إعانته ومساعدته في تحصيل نفع أو دفع ضر فهذا سائغ لا محظور فيه. Donc Cheikh nous dit, bien que نعبد sa parole, toi seul nous adorons. C'est-à-dire nous n'adorons pas autre que toi. C'est un engagement, et c'est pour ça que je dis l'ahd ici. Ça, c'est important que chaque fois qu'on dit Iyaka na'boud ou Iyaka na'sa'in dans notre prière, qu'on se rappelle cet engagement qu'on a envers Allah Rabbil Alamin. Entre l'adorateur et son Seigneur, hein? Qu'on n'adore que lui, hein? Que nous n'adorons que lui. Et c'est toi seul dont nous implorons le secours. C'est un engagement entre l'adorateur et son Seigneur qu'il n'implore le secours que d'Allah. Cheikh Al-Abbad explique cela en disant, la traduction de la parole d'Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat 1, Al-Dhariyat, verset 56. Et il y a un point important de la grammaire que je ne vais pas rapporter ici, mais je vous donne la référence, vous pouvez trouver. Le lam, juste le lam, ليعبدون. سي كوا لو لام ايسي؟ Eh bien, revenez à Fath al-Majid, Sharh Kitab Tawhid, ou bien l'explication d'Ibn Qasim, Hachat Kitab Tawhid, vous allez voir, mashallah, il y a un point très important juste avec le lam. En fait, justement, parce que, est-ce que c'est pour la raison, comme tu as dit, le ta'lil, mais est-ce que c'est le tahqiq? Est-ce que tous les gens, Allah il a créé les djinns et les hommes pour qu'ils l'adorent, mais est-ce qu'ils l'adorent tous? Non, il y a des gens qui associent Allah Azza wa Jal. Donc c'est important de comprendre ici, c'est la raison. Ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire. D'accord? On ne va pas rentrer en détail là-dedans, mais revenez aux références que j'ai données, et c'est un point très important. Il y a le fait de faire précéder ce qu'on appelle en français, dans la grammaire française, le COD. Je sais que maintenant, ils n'appellent pas le CD, le complément direct, c'est-à-dire celui qui subit l'action, et ça, on ne dit pas envers Allah Azza wa Jal. Ce qui veut dire, c'est quoi? C'est que celui qui est adoré, c'est ça qu'il faut comprendre ici, c'est qui? Allah Rabbil Alamin. C'est-à-dire le maf'oul, eh bien, qui est ici toi, yaka, dans l'adoration, et implorer le secours, il y a en cela une spécification et une restriction. Une restriction, c'est-à-dire toi seul, nous adorons. C'est-à-dire que l'on restreint le droit d'être adoré à Allah. Et on lui voue cette adoration de manière, comment? Exclusive. Allah seul, donc, doit être adoré. Combien de gens qui disent, yaka na'budu wa yaka nasta'in, et tu les vois aller dans les tombes. Tu les vois demander l'aide d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Et donc de lui seul on se doit d'implorer le secours. L'adorateur ne demande donc pas d'aide aux anges, ni aux djinns, ni aux absents. Comme salam. Tandis que demander de l'aide à quelqu'un, et ça c'est un point important à préciser, parce que des gens ils vont dire, oui mais pourtant moi je demande à quelqu'un de décharger ma voiture, est-ce que j'ai fait du shirk? C'est important qu'il y a. Les ulémas ont parlé de ça, ils ont discuté de ces points-là. Ils ont donné des règles pour te retrouver là-dedans. Qu'est-ce qui rentre dans le shirk, qu'est-ce qui ne rentre pas dans le shirk? C'est important de comprendre ça. Il dit, tandis que demander de l'aide à quelqu'un qui est présent, première condition. Quoi? Présent, hadir. Capable, deuxième condition. Qadir. On appelle hadir, qadir. Présent, capable. D'aider à obtenir un bien ou de repousser un mal. Eh bien, ceci est autorisé, il n'y a en cela aucune interdiction. Donc, les ulama, ils disent, et je vous donne une définition qu'ils disent dans les livres de, comme Kitab Tawhid, comme Fath al-Majid, etc. Ils disent, ce qui est shirki, le shirk où il est, c'est quoi? C'est talab l'aoun min ghirillah, fima la yqdiru alayhi ilallah. C'est le fait de demander à autre qu'Allah de l'aide dans ou pour ce que Allah est capable de faire. D'accord? Tandis que si. Que seul capable de faire. Que seul Allah est capable de faire. Bien sûr. D'accord? Donc, le fait de demander par exemple de l'aide à quelqu'un qui est capable et présent, eh bien quoi, ça c'est autorisé. D'accord? Et sa parole, guide-nous dans le droit chemin. Ihdina sirat al-mustaqim. معنى اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا والصراط الاسلام وقيل الرسول وقيل القران والكل حق والمستقيم الذي لا عوج فيه حاجة العباد الى الهداية الى الصراط المستقيم فوق كل حاجة وضرورتهم اليها فوق كل ضرورة وحاجتهم اليها اعظم من حاجتهم الى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب سبب بقائهم في هذه الحياة الدنيا وأما هدايتهم الصراط المستقيم فهي سبب فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة وسعادتهم في الدنيا والآخرة وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم يتضمن طلب الدلالة والإرشاد إلى الطريق الحق والهدى ويتضمن طلب التوفيق لسلوك الصراط المستقيم والسؤال العبد ربه في كل ركعة من ركعات الصلاة الهداية إلى الصراط المستقيم يتضمن سؤال الله عز وجل تثبيته على ما حصل له من الهداية ويتضمن الطلب المزيد من الهداية كما قال عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم سورة محمد ولا تنافي بين تفسير اهدينا بدلنا أو بدل يعني بدلنا وأرشدنا وثبتنا وتفسير الصراط المستقيم بالإسلام والرسول والقرآن لأن ذلك من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد. Donc c'est quoi les deux genres d'ikhtilaf? Ce que les ulama appellent ikhtilaf tanawu' ou bien ikhtilaf tadad. ولهذا قال الشيخ والكل حق وتفسيرة السلف غالبا تكون من هذا القبيل وإما تفسير بالألفاظ المتقاربة كلها حق ولا تنافي بينها كما هنا وإما تفسير بالمثال وهو أن يفسر لفظ عام ببعض أجزائه مثل قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سورة البقرة. فإن التفسير حسنة الدنيا بالزوجة الصالحة أو الولد الصالح أو المال الطيب لا منافاة بينها وهو من قبيل التفسير بالمثال. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad حفظه الله تعالى. Donc il explique quoi la parole de guide-nous dans le droit chemin. Et le sens de guide-nous, indique-nous, dirige-nous, affermis-nous. Le chemin ici, c'est l'islam. D'autres ont dit, c'est-à-dire d'autres savants, le messager, Al-Rasoul. Et d'autres ont dit le Coran. Tout est vrai. Al-Mustaqim, c'est-à-dire le droit chemin, sans aucune distorsion. Le besoin de guidance des serviteurs vers le droit chemin est au-dessus de tous les besoins. Et la nécessité de cette guidance est au-dessus de toutes les nécessités. Leur besoin de guidance est plus fort que leur besoin en nourriture et boisson. Car la nourriture et la boisson sont les causes par lesquelles ils restent dans ce bas monde. Tandis que leur guidance dans le droit chemin, elle est la cause de leur félicité et de leur bonheur dans le bas monde et dans l'au-delà. Le fait de demander la guidance vers le droit chemin comprend la demande d'indication et de direction vers la voie de vérité et de guidance, et comprend également, parce que certains peuvent se dire pourquoi on dit Ihdina Sirat Mustaqim, et comprend également la demande de tawfiq pour prendre le droit chemin. La demande donc de l'adorateur, de quoi? De ce qu'on appelle de guidance et de tathbit. De quoi? De guidance et de d'affermissement. Et on va terminer là-dessus, Inch'Allah, aujourd'hui, c'est assez pour aujourd'hui. والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك